Chapitre 3. Dans les environs d'Uni, j'avais rencontré Aristote. Nous avions échangé, comme un rapide bonjour, une courte harmonie affectueuse, et elle avait continué sa marche. Moi, je m'étais arrêté et je songeais. Ma pensée de fourmi, contrariée par des habitudes humaines, ne parvenait pas à résoudre un problème pourtant fort simple. Je n'avais pas d'oreille et j'entendais. Où se trouvait donc mon organe de l'ouïe? Je produisais des stridulations, je les écoutais soigneusement, et je me demandais avec quoi j'écoutais. Je ne trouvais pas la réponse. Je m'appliquais à procéder méthodiquement par une sorte d'analyse. Je rapprochais mes antennes de mes organes de stridulation, puis je les éloignais. Rien n'était changé dans l'intensité du son. Je les appliquais même contre les vibrations, comme on applique l'oreille contre le tic-tac soudain grossi d'une montre. Le bruit touché n'augmenta pas. Je répétais ces expériences avec mes palpes. Aucun résultat. J'éloignais et rapprochais alternativement ma tête du bruit. Rien n'était changé. L'organe de l'ouïe n'était pas dans ma tête. À cette constatation, mes préjugés d'homme s'émurent, affolèrent mon esprit de fourmi. Je demeurai stupide, les mandibules écartées comme les lèvres et les mâchoires ouvertes d'un imbécile, n'essayant même plus de comprendre. Heureusement, Aristote revenait de mon côté. Je courus à elle, lui dis la question qui m'inquiétait. Elle joua une musique ironique, et prenant une de mes pattes antérieures, la posa sur la rugosité stridulante. Oh, l'harmonie devint énorme, assourdie, ébranla tout mon corps. Mon ami lâcha ma patte, s'éloigna sans autre explication. Sur mon cerveau gauche, l'homme se dressa, gigantesque d'étonnement, les bras levés vers le ciel, et il dit, très bête, « Allons, bon !» Voilà que mes tibias sont des oreilles. Mais je n'eus pas de temps à donner à ces sots émerveillements. Une odeur nauséabonde commençait, approchait, de plus en plus écœurante, de plus en plus insupportable. Et je voyais une fuite de fourmis vers le nid. D'autres s'abritaient dans des creux, sous des touffes d'herbe, comme si elles craignaient d'être écrabouillées par quelque lourd éboulement. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je à une fuyarde. Ses antennes tremblantes de peur frémirent comme on bégaye une question stupéfaite. « Mais tu sens donc pas ?» Elle passa, rapide, trébuchante, roulée dans un vent de terreur. Et je voyais continuer l'inexplicable panique. La contagion me gagnait. C'est avec un effroi mystérieux que j'interrogeai une ouvrière cachée toute frissonnante dans un trou voisin. Elle me dit, se serrant contre moi, « Reste ici à l'abri. Il vient un homme qui, si tu sors, va t'écraser. » Ou plutôt, elle ne dit pas « un homme », car je pousse le scrupule jusqu'à être le moins inexact possible dans mes traductions de l'intraduisible. L'homme, pour les fourmis de mon nid, n'était pas désigné d'un seul mot. Elle parlait rarement du vaste animal redoutable et méprisable et le nommait par une définition bizarre que j'essaie d'exprimer. La poltronne m'avait dit à peu près « Une montagne qui marche sur deux pieds va t'écraser. » Je ne restais pas dans l'abri. Je venais d'apercevoir la montagne qui marchait sur deux pieds et quelque chose de nostalgique et d'étrange m'attirait vers elle. Ma pensée humaine avait chassé ma pensée de fourmi, sans lutte, presque sans souffrance. Les souvenirs me possédaient, si intenses que le présent en était supprimé, et que cette minute était conquise par mon passé. Par quel miracle les objets avaient-ils repris leurs proportions d'autrefois, leurs proportions de quand j'étais homme ? Mes yeux de fourmi voyaient avec des habitudes d'homme et vraiment n'étaient pas des yeux de fourmi. C'est un moi ancien qui jugeait, qui comparait, et, tel est l'irrésistible pouvoir de l'esprit, malgré l'opposition inentendue des organes, j'étais un homme qui regardait un autre homme. Et je me disais, en cet extraordinaire rêve éveillé, « Il est plus petit que moi, il paraît faible. Oh, d'une bousculade, je le ferai reculer plusieurs pas trébuchants, puis tomber. » Il était presque sur moi. Je criais, « Hé, l'ami, passe au large !» Mais je n'avais pas d'organe pour parler. Mon grand cri restait intérieur. Je songeais en un commencement d'horreur. « C'est un cauchemar, je sais, on ne peut pas crier. » Je me rappelle que je me dis aussi, « Ah, ça, est-ce que je vais rêver encore que je suis une fourmi ?» Et il me semble que d'un grand effort, je me réveillais. Trop tard, il avait déjà le pied levé sur le mien. Oh, je n'attendais pas que le rouleau m'écrasât les orteils. Tant pis pour le maladroit. La bousculade, l'heure trébuchant et la chute. Mes bras se tendirent hostiles. Alors, dans un éclair, je vis que mes bras, si petits, si grêles, étaient des pattes de fourmis. Je songeais encore. Des pattes qui ont des oreilles, mais quel rêve fou recommence! Je crus qu'un rire nerveux allait me réveiller. Mais ce fut soudain une nuit noire, sinistre. Le cauchemar m'écrasa jusqu'à la mort. Puis je ne sentis plus rien. La montagne qui marchait sur deux pieds avait marché sur moi. Combien dura mon anéantissement, je l'ignore. Le premier souvenir que je retrouve est lugubre. J'entends des harmonies tristes mortellement, et mes yeux commencent à voir comme à travers une brume. Un de nos soldats géants me tient délicatement dans ses formidables mandibules. Il me porta, où, pourquoi ? Sa marche est lente, comme accablée. Dans les sursauts, je crois apercevoir derrière lui une foule d'ouvrières qui marchent sous la même tristesse. Ce sont elles, sans doute, qui stridulent les mélodies funèbres. Tout m'étreint. Dans ma terreur impuissante, il me semble que l'horrible promenade dure, interminable, des heures peut-être. La première pensée qui se décide en moi, un peu précise, dit « Si j'étais encore homme, je croirais assister à mon propre enterrement. » L'étrange promenade, lente et triste, s'arrête. Les musiques prennent une force plus grave, une profondeur douloureuse inconnue. Le drame doit approcher du dénouement. Je suis toujours paralysé, les membres épars comme en morceaux, sans articulation, sans communication entre eux ni avec ma vague volonté. Mais mes yeux voient comme à l'ordinaire, et mon intelligence devient aussi nette et pénétrante que jamais. J'observe, et dans quelle angoisse! On me pose à terre, couché sur le dos. Je suis à l'extrémité d'une rangée de fourmis immobiles, étendues aussi sur le dos. Des mortes, assurément. Derrière moi, d'autres rangées de cadavres. Je sens que mes compagnes vont s'éloigner. La cérémonie est finie. Je vais rester là, abandonné, au bout de cette ligne rigide, seule vivante dans ce cimetière, immobile de faiblesse et d'agonie, au milieu de l'immobilité des mortes. Des pensées se pressent en moi, innombrables, marchent comme une rapide procession sur deux rangs. Car chacune est double, pensée d'homme à gauche et à droite, pensée de fourmi. Ce que j'essaye de dire a duré probablement quelques secondes. Mais, pour me répéter le peu qui me reste exprimable dans ce que j'ai vu et pensé nettement en ces quelques secondes, il me faudrait des heures. Mes pensées de fourmis sont des fourmis. Mes pensées d'hommes sont des femmes. Les antennes des fourmis s'adressent à mon antenne droite. Les femmes parlent penchées au tibia de ma première patte gauche. La plupart de mes pensées sont tristes, quelques-unes me consolent. Mais la couleur des premières et des secondes me frappe d'un égal étonnement. Lorsque la pensée est consolatrice, la femme qui s'incline vers moi est une grande blonde vêtue de blanc, tandis que la fourmi, autre interprète de la même joie, est du noir ordinaire aux fourmis de mon espèce et ressemble à Aristote. Les femmes qui se plient en deux pour me dire des pensées tristes sont de petites brunes raides vêtues de noir en long voile de deuil. Les fourmis qui marchent sur une ligne parallèle et dont les antennes frémissent en une langue si différente, les mêmes désespoirs sont blanchâtres de la couleur des nymphes, sont des nymphes qui marcheraient sans avoir rejeté leur linceul. Je dis très mal ce que je veux dire, et je ne puis le dire mieux. Mais le lecteur se souvient, j'espère, que mon blanc n'était pas blanc et que mon noir n'était pas votre noir. Je veux seulement exprimer cette singularité qui m'étonna beaucoup. La couleur qui revêtait pour mon esprit d'homme mes pensées joyeuses était la même dont mon imagination de fourmi habillait mes tristesses. Et ce qui formait à gauche la livrée lugubre de mes chagrins devenait à droite le costume souriant de mes bonheurs. Je parviens à revoir vraiment blanche et noire maintenant, la double procession. Je ne réussis pas à sentir tout ce que les fourmis disaient à mon antenne, ni même à entendre tout ce que les femmes chuchotaient ou criaient à mon tibia. Voici seulement, en langage abstrait, ce que je puis repenser. L'angoisse, noire à gauche, blanche à droite, me disait: on va t'enterrer vivante. Une longue théorie de veuve et de nymphe me détaillait cette horreur. La consolation me répondait: les fourmis n'enterrent pas leurs compagnes. Elles laissent les cadavres se dessécher à l'air libre. Regarde, rien n'empêcherait ta voisine, si elle ressuscitait, de se remettre d'aplomb sur ses pattes et de revenir au nid. Des blondes vêtues de blanc chassaient devant elles le troupeau des brunes endeuillées, et des fourmis délicieusement noires bousculaient dans un trou les horribles nymphes blanches. Et blondes heureuses et fourmis gaies et actives disaient à mes deux pensées chacune des joies convalescentes et attendries de ma prochaine résurrection. Mais les veuves écrasantes et les nymphes spectrales revenaient de nouveau victorieuses. Elle répliquait aux contradictrices, disparues, que la paralysie du cercueil et l'étouffement de la terre seraient bien superflus pour me tuer. L'abandon loin du nid et le manque de soins suffiraient largement. Et elle multipliait les questions ironiques et cruelles. Mais où ton corps prendra-t-il la force de se retourner? D'où tes pattes tireront-elles l'énergie de te porter? Tes yeux et tes antennes découragées sauraient-ils seulement te conduire? Et les noirs fantômes de gauche, comme les spectres blancs de droite, concluaient: mais tu es perdu, tu es perdu! Parce que j'ai voulu exprimer ce que mes pensées avaient de singulier, je ne puis vous émouvoir de mon émotion. Je le regrette peu. Des affres aussi terribles furent ressenties. D'autres êtres furent abandonnés à une longue mort sans espoir. Mais nul, je suppose, n'a connu le dualisme noir-blanc de mes joies, le dualisme blanc-noir de mes désespérances. J'ai dit que ces deux mondes de pensée s'étaient pressés en moi quelques secondes tout au plus. Femmes blanches ou noires, fourmis ou nymphes, toutes en effet me répétaient, les unes sur des tons divers, lugubres ou joyeux, les autres par des mouvements différents, sinistres comme lumineux. Ce moment est le moment irréparable. Un effort peut te sauver. Fais un mouvement que tes amis apercevront ou chante ton désespoir et elles entendront ta vie. Il me semble que je parvins à trembloter, oh, si faiblement, des six douleurs qu'étaient mes pattes, et il me semble que j'ai réussi à striduler un vague « au secours ». Quelques fourmis approchent. J'essayais de répéter mon cri, de renouveler aussi l'appel de mes pattes, mais la nouveauté de l'espoir n'était plus paralysante que tout à l'heure le désespoir. Peut-être aussi un seul effort suffisait-il à m'épuiser pour des heures. Je mourais de faiblesse et d'attente. Ma volonté à demi éteinte s'usait tout à me conserver un reste de sentiment et à me faire voir un peu ce qui se passait autour de moi. Maintenant, les pensées ne couraient plus rapides, chuchoteuses, inclinées. Elles étaient toutes, femmes debout et fourmis allongées, groupées sur moi. Leur poids immobile me faisait, semblait-il, descendre sans secousse, sans autre douleur que l'horreur de glisser dans l'inéluctable, le long d'un abîme sans fond. Chose et être réel s'éloignaient lentement, implacablement, et c'est comme penché sur le bord du gouffre que je voyais les cadavres rigides et les herbes émues par le vent. Du milieu d'un songe qui sans doute ne finirait jamais, je regardais aussi s'agiter mes amis là-haut, sur l'étrange plateau d'une vie que j'avais connue. Elles allaient et venaient dans un espace restreint, comme enfermées, trépidantes d'une insurmontable hésitation. Et leurs antennes se rencontraient, discuteuses, avec des éloquences persuasives ou de brusques, douloureuses et j'oserais dire ricanantes négations. Enfin, l'une de ces fourmis vint à moi. Je fus inondé d'espérance, car je reconnus ma bien-aimée Aristote. Ses pattes antérieures soulevèrent mes antennes qui traînaient misérables. Il me sembla remonter des profondeurs à l'air libre. Et elle me dit, la chair bienfaisante, « Si tu es encore vivante, manifeste ta vie. » Je sentis recommencer la chute d'agonie, et tout mon être fut étreint par cette idée. Je suis trop faible. L'angoisse épouvantable donna à mes antennes un frémissement d'impuissance que l'affection d'Aristote devina plutôt que ses organes ne le perçurent. Elle me saisit par le thorax et, suivie des autres qui émettaient des musiques joyeuses, elle me rapporta au nid. Elle me déposa dans une case du second étage, en bonne obscurité, et me soigna avec un dévouement jamais en défaut. Tous ses soins étaient simples. Elle glissait dans ma bouche d'exquises gouttes nutritives tirées de son jabot. Sa langue léchait mes plaies qui ne tardèrent pas à se fermer. Avec des précautions délicates, elle pliait et dépliait mes pattes, mes palpes et mes antennes, leur rendait graduellement la faculté de se mouvoir. Quand je fis mes premiers pas, ses mandibules, entourant mon thorax comme des bras, me portaient à demi. Combien de fois et avec quelle émotion nous nous sommes rappelés cette époque. Combien de fois je me suis fait dire le détail de mes funérailles, la tristesse d'Aristote, sa lenteur à me quitter, l'impossibilité qu'elle éprouvait à s'éloigner et ce quelque chose qui lui affirmait que je vivais encore. Ses camarades étaient tentés de railler quand elle était redevenue vers moi à demander à la morte de manifester sa vie. Elle ne tarissait pas sur son tremblement d'angoisse et d'espoir au moment où elle interrogea mon immobilité, la supplia de frissonner le frisson de salut. sur son débordement de joie quand elle sentit, devina plutôt, le faible frémissement qui lui rendait une amie. Elle me demandait mes impressions de transporter au cimetière et mes impressions d'abandonner. Je lui racontais tout ce qui avait ému mon cerveau droit, toutes les fourmis et toutes les nymphes qui avaient encouragé ou écrasé mes antennes, et que les consolatrices lui ressemblaient avec sa beauté grave et douce. Mais le mouvement de mes antennes évitait d'éclairer le cinématographe trop étrange que fut mon cerveau gauche. Je laissais ignorer à Aristote les femmes blanches et noires qui parlèrent à mon tibia. Je savais trop que mon côté humain lui paraîtrait folie, l'attristerait inutilement. Mais j'étais bien triste moi-même de ne pouvoir me dire tout entier au plus aimé et au plus aimant des êtres. Parfois, cette tristesse s'accablait, comme d'un fardeau sur un fardeau, du sentiment que notre amour était incomplet. Mais je cachais avec un soin tremblant ma folie des ailes. Je suis allé souvent, à ces heures de mélancolie, visiter le cimetière où mon corps faillit agoniser dans l'abandon. C'était non loin de la fourmilière, à 5 pas d'homme, une clairière entourée d'herbes hautes. Un plan de fraisier se dressait au milieu, frémissait seul sur les rangées de cadavres qui séchaient, étendus sur le dos, en une immobilité définitive. Un jour, en sortant du cimetière, je marchais mélancolique. Je m'attristais à songer que je redeviendrais un homme au sens appauvri, à l'esprit si fermé. Depuis quelque temps, ma pensée humaine, presque disparue, me permettait le bonheur. Quand un souvenir m'arrivait des années précédentes, il était vague, fantomal, comme réduit en vapeur par le passage d'une vie à une autre vie. Je ne l'acceptais plus comme récent, ni même comme matériellement vrai. J'accueillais comme une poésie cet étrange rêve symbolique qui disait la multiplicité des existences et les stations étonnées de notre âme en décors divers. Mais la lourde maison aux 5 pauvres fenêtres, mon âme l'avait-elle habitée réellement? J'en doutais. Y reviendrait-elle un jour? La supposition me paraissait absurde autant qu'angoissante. Pourquoi donc aujourd'hui le dualisme de ma pensée me déchirait-il, brutal, indéniable? Pourquoi me revoyais-je, enfant, sur des genoux maternels? Pourquoi des remembrances de caresses douces montaient-elles lentement jusqu'à moi? Et pourquoi aussi des souvenirs violents de baisers qui s'agitent et qui crient m'assaillaient-ils de brusques souvenirs de baisers qui vont mordre, qui mordent? Ils étaient anciens, ces baisers fougueux. Je les avais reçus dans ma petite chambre d'étudiant. Depuis des années, je les avais oubliés, laissant s'endormir par la calme et quotidienne régularité des caresses conjugales. Aujourd'hui, dans ma vie de fourmi neutre, ils me troublaient. Nostalgiques appels vers les deux bouts de l'horizon m'écartelaient entre des regards vers hier et des désirs vers demain. J'aurais voulu tout de suite redevenir l'homme à l'univers si pauvre mais qui pouvait goûter l'amour, savourer le baiser plus doux que sucre de blé. Et je m'inquiétais des dangers que me faisait courir mon dualisme intérieur. Si, l'autre jour, quand le lourd dos m'écrasa, j'étais morte tout à fait, si mon corps de fourmi se desséchait maintenant parmi les petits cadavres noirs, sous la forêt triste du fraisier, Octave Péditant, celui qui connut baisers violents et calmes caresses, et qui aspirait à les retrouver, serait-il mort aussi? Je frissonnais tout entier à cette idée. Peut-être les dernières caresses que je devais recevoir, je les avais reçues. Peut-être mon étourderie me tuerait avant la fin de mon année et je n'aurais à mon agonie que les froides consolations d'Aristote. Neutre comme moi et fière, elle, d'être neutre, est-elle une nonne chaste, méprisante pour l'amour inconnu? Parfois, j'injuriais la fée qui ne m'avait point garanti la traversée de cette année, qui peut-être voulait, en me laissant mourir fourmi, se délier de ses autres engagements. Et un long désespoir l'appelait, homme dressé hagard sur mon cerveau gauche. La bouche ouverte criait « Rends-moi l'amour, rends-moi l'amour !» Et elle disait aussi « Garde ton million !» Mais la phrase, commencée très tôt et très nette, se perdait dans un indistinct bredouillage, car des corps de femmes m'apparaissaient, merveilles à vendre, et j'aurais bien voulu pouvoir me les payer. Les joies des spectacles et les joies de la science faisaient rire ma pensée gauche. Je n'ignorais plus que la science humaine étudie l'univers de bien pauvres yeux, et en devenant homme, je savais que j'irais à l'appauvrissement décoloré du spectacle. Mais le baiser, presque méprisé autrefois, réapparaissait maintenant comme un absolu, comme la seule chose vraiment bonne, vraiment désirable. Je marchais isolé dans ma songerie. Tout à coup, je m'arrête, étonné. Deux masses énormes, deux de ces terribles montagnes qui marchent sur deux pieds, sont là, devant moi, étendues sur l'herbe, côte à côte. Dès que fut remarqué le soudain spectacle, avant même qu'en fût reconnue la nature, et aidant sans doute pour beaucoup à cette reconnaissance, l'odeur ignoble qui deux fois déjà me cria des présences humaines m'envahit. Peut-être ne l'avais-je point senti plus tôt parce que je pensais uniquement en homme et que la pensée pervertit jusqu'à nos sens. Il me sembla que les deux êtres s'étreignaient et mon âme humaine pleura. Les proportions et les couleurs étaient trop changées pour que je puisse distinguer les gens les mieux connus pendant ma vie antérieure. Cette hypothèse jalouse me pinça les nerfs. C'est peut-être ma femme avec mon remplaçant. Au risque de me faire écraser, je grimpais sur une partie dénudée de la montagne la plus voisine et furieusement, à deux reprises, j'enfonçais mon aiguillon. La double plaie béante reçut toute ma provision de venin. Mais la montagne s'agita en puissant soubresaut et une fuite éperdue m'emporta. Quand je me crus hors de danger, je me reprochai ma témérité. La vie me devenait précieuse comme une angoisse finissante, puisqu'elle me rendrait un jour le baiser. Ma course sans but m'avait conduite en des contrées inconnues. Je me disposais à revenir vers la fourmilière quand j'aperçus, assez loin heureusement, une troupe de fourmis qui étaient des étrangères. Leur odeur que le vent m'apportait, moins infâme que l'infection humaine, avait pourtant quelque chose d'hostile. Elle irrita et effraya mon odorat, comme l'uniforme d'un régiment ennemi irrite et effraie la vue d'un soldat isolé. Je manœuvrais de mon mieux pour les éviter, pour éviter la mort, pour éviter la perte définitive de l'amour. Mais elles furent, par mon odeur sans doute, averties du voisinage d'une proie. Elles me poursuivirent âprement en une chasse sans merci. Je courais haletante, me sentant perdue, entendant derrière moi les pas toujours plus rapides, toujours plus rapprochés de l'horrible meute. Enfin, j'aperçus au loin le rempart rassurant de ma fourmilière. Derrière moi, le bruit menaçant cessa. La bande méchante s'était arrêtée. Devant moi, voisine, soulevant en mon âme double tous les bonheurs, une troupe de mes compatriotes. Un courage me vint, transforma ma peur en colère. Je m'arrêtai, me retournai. Mon attitude fut un défi. Mes amis avaient vu, avaient senti, avaient compris. Elles se rapprochèrent. Lentement, sur plusieurs lignes bien droites, la troupe ennemie avança. J'eus un frémissement belliqueux. Je crus qu'une grande bataille allait s'engager. Je voulus être la première à frapper. Les deux troupes se sont arrêtées à distance. Une ennemie se détache de la bande méchante, marche sur moi. Des deux côtés, on nous regarde. Il n'y aura pas bataille, mais probablement combat singulier. Mon ardeur tombe à l'idée que je serai seul en péril. Je me sens moins brave pour l'action isolée que pour l'enivrante mêlée. D'ailleurs, mon adversaire est plus grande que moi. Je trouve injuste que mes amis me livrent à cette lutte inégale. Ne devrait-elle point me faire remplacer par un soldat de même taille que le soldat ennemi ? Une seconde, je m'abandonne. Je me résigne à la mort. Il me semble que mon abdomen sera heureux transpercé par l'aiguillon ou que ma tête écrasée entre les mandibules goûtera je ne sais quelle volupté. Mais l'idée de ces étranges joies devient très caractéristiquement humaine. Les mandibules écrasant ma tête sont des bras qui m'étreignent pour le baiser. Et je me réveille au courage, au désir de vivre. Je lutterai contre le faux baiser meurtrier pour me conserver au vrai baiser, à l'étreinte qui se dessert souriante et recommence plus douce. Mandibules ouvertes, antennes retirées en arrière, nous avançons avec une lenteur qui guette. Tout à coup, elle s'élance sur moi, bond terrible, chute d'effroi, essaie de me saisir au thorax. J'ai bondi en même temps, et nos mandibules se sont heurtées, se sont froissées comme quatre épées aux mains de deux violents combattants. Elle recule pour prendre du champ, s'élancer de nouveau. Feu ne lui laisse pas le temps d'une nouvelle attaque. Je me jette sur elle en une fougue. Mes mandibules, vigoureuses assaillantes aux feintes promptes, aux promptes attaques, se heurtent à ces mandibules rapides, toujours à la parade. J'entends derrière moi les musiques encourageantes, grisantes de mes amis. De l'autre côté viennent des harmonies sauvages, qui me grisent aussi, qui me grisent d'irritation. Une colère nous agite l'une et l'autre. Nos mandibules se frappent furieuses de ne pouvoir atteindre le corps. Nous avançons, nous nous dressons, nos pattes antérieures se saisissent, se mêlent indénouablement. Nous nous étreignons, nous tombons, horrible emmêlement. Nous nous roulons à terre. Hélas, je suis dessous. Fini pour mes vœux, les spectacles riches ou pauvres. Fini pour mon corps, les baisers âpres et les tendres caresses. Émotion de l'amour, mon âme ne vous retrouvera plus. L'aiguillon va me percer, le venin va me pénétrer de sa brûlure. Voici, après les jactitations de l'agonie, l'immobilité farouche que le baiser même ne ferait plus frémir. Le baiser, je veux encore goûter le baiser. Quelle force nerveuse me secoue, me relève, me dégare. Je suis presque derrière mon ennemi. Rapide comme la mort subite, je chevauche sur elle et mes mandibules serrent son dos. Déjà je suis ivre de victoire. Le long bonheur qu'éprouvent mes tenailles vivantes en remontant de mouvements réguliers au cou de celle qui faillit me tuer, qui faillit me séparer pour jamais des caresses féminines. Avec la joie délirante qui me soulèverait en frappant un rival d'amour, je serre le misérable cou entre mes crocs. Déjà la chaîne nerveuse est coupée. Déjà, toute résistance est morte. Mais le triomphe ne me suffit pas. Il me faut, entre mes membres heureux, des tressaillements d'agonie. Je continue à serrer. Mes mandibules se rapprochent dans les chairs saignantes, se touchent. La tête coupée tombe devant moi. Mes amis accourent avec des chants orgueilleux. La troupe hostile disparaît, rapide et furtive comme la honte. Depuis le combat singulier, nous vivions sous une inquiétude. Aristote me disait souvent « Ne t'écarte pas, il y a sûrement une fourmilière trop près de chez nous. Gare aux isolés surprises par l'ennemi. » Je demandais « L'ennemi, c'est tout étranger ?» Ma chère Aristote me regardait avec un étonnement presque triste, et le mouvement rapide de ses antennes avait je ne sais quoi d'exclamatif que je ne crois pas trop mal traduire. « Parbleu !» Par une autre après-midi écrasante de chaleur, je traînais un grain lorsque je vis près de notre cratère une fourmi de l'autre nid. Elle courait, affolée, allant et venant, se cachant derrière les herbes. Plusieurs troupes des nôtres étaient par là, et la pauvre égarée avait peu de chance de passer sans être aperçue, sans que son odeur infecte attirât nos braves patriotes, comme odeur de charogne attire les corbeaux. Mon cerveau droit me poussait à me jeter sur l'étrangère qui semblait si mauvais, et à la déchirer, ou plutôt à appeler mes amis et à boire en une puissante griserie commune le plaisir cruel. Mais mon esprit gauche me rappelait, attendri, les dangers courus l'autre jour, confondait en une sympathie mon péril passé et ce péril présent. En moi, l'homme triompha de la fourmi. Ce jour-là, je fus humain au beau sens du mot. Je courus à la misérable. Elle s'arrêta, attendit la mort avec résignation. Mes antennes lui dirent « Viens, je vais te conduire. » Ses antennes répondirent des frôlements qui pour moi n'avaient aucun sens. Et je songeais « Chaque patrie a son dialecte, qui mettent entre elle et les autres patries une frontière d'incompréhension. » Heureusement, ma pensée d'homme se souvint que le langage analytique seul diffère. Les gens des nations diverses peuvent par des gestes se dire synthétiquement l'indispensable, et le baiser a le même sens par tous les pays humains. Sans doute, une musique affectueuse devait éveiller chez toutes les fourmis les mêmes émotions heureuses. Je stridulais des pitiés. Une harmonie de stupéfaction me répondit. Je marchais en avant, on ne me suivit pas. Je revins et je pris la pauvrette entre mes mandibules. Elle me regarda comme le condamné regarde le bourreau, et son corps, en un long tremblement, grelotta d'involontaire musique résignée. Je la portais doucement, soigneusement. Le grelottement stridulant redevint étonné. Arriva l'instant critique. Je m'arrêtais, embarrassé. À droite, le cimetière où beaucoup des nôtres étaient allés transporter le cadavre d'une vieille ouvrière, et à gauche, une grosse bande de travailleuses, parmi lesquelles Aristote. Si nous dépassions ces deux dangers, ma protégée serait à peu près sauvée. Mais ils étaient si rapprochés, ils étranglaient en un si étroit espace l'espoir. Je songeais bien à m'éloigner de tous les deux en tournant l'un ou l'autre. Ce serait si long, si hérissé d'inconnus, de surprises, de périls. Et puis, quand on est chargé et qu'on ne va pas droit devant soi, il est si difficile de se diriger. Je ne vis qu'un partissage, nous glisser entre les deux bandes, en nous éloignant davantage du cimetière, plus dangereux. si nous nous heurtions à l'autre troupe, Aristote comprendrait mes raisons, tout au moins céderait à mes prières, et personne ne se révolterait contre son autorité. L'inertie, l'indifférence, l'étonnement méfiant de ma protégée rendaient la marche lente et difficile. Un instant, je m'arrêtais, tremblante. Je regardais du côté d'Aristote. À demi dressée sur les pattes de derrière, antenne tendue vers nous, elle semblait renifler l'odeur de l'étrangère. Justement, le vent lui portait cette infection. Bientôt, je la vis qui marchait sur nous, suivie de toutes ses compagnes. Fuir était impossible, ma course alourdie eût été bien vite atteinte. Je déposai mon fardeau, je courus à Aristote. Mes antennes dirent la vérité, expliquèrent qu'une étrangère isolée n'était pas un danger, qu'il n'y avait ici aucune raison de tuer. Aristote ne me répondit pas. C'est à une autre que ses antennes s'adressèrent. La nouvelle fut rapidement connue de toutes, et la bande s'ébranla. Leur marche n'était pas notre marche ordinaire. Un désordre joyeux et colère pressait mes compatriotes, les jetait en avant les unes sur les autres. Elles couraient, se dépassaient, se heurtaient, comme soulevées par une houle ivre. Chacune voulait arriver des premières, être de celles qui entouraient la proie, qui jouirait et jouerait de son agonie, qui aurait la volupté de voir souffrir et mourir, de faire souffrir et mourir. Plus rapide que leur folie sanguinaire, je me jetais devant Aristote qui allait en tête. Je la suppliais d'avoir pitié. Je lui dis, « C'est peut-être une bonne fourmi, aussi douce, aussi aimante, aussi intelligente que toi. Pense à ma douleur. » Si on te tuait sans raison, ô ma bien-aimée, comme tu veux tuer celle-ci qui est peut-être aimée ailleurs. » Elle me bouscula, disant, « C'est une étrangère. » Je revins à la charge. « C'est peut-être l'Aristote de l'autre nid. » Elle répliqua, « C'est une étrangère. » J'insistai, « Mais en quoi une étrangère est-elle moins fourmi que toi ? N'a-t-elle pas, comme toi, des antennes toujours frémissantes de mille joies, de mille douleurs, de mille pensées? N'a-t-elle pas, comme toi, des yeux à facettes, éponges à boire toute la beauté environnante? » Une bousculade brutale mit en déroute ma shakespearienne énumération, et les antennes répétèrent, « C'est une étrangère !» Mais je m'attachai à mon ami désespérément, et je continuai, « Mais c'est, comme toi ou moi, un trésor de vie. Pourquoi le détruire ?»« C'est une étrangère !» J'avais retardé la marche d'Aristote. Plusieurs, maintenant, la devançaient. Elle s'en aperçut et sa colère devint violente. « Imbécile, tu me mets en retard !» D'une bourrade irrésistible, elle se dégagea et son élan la porta de nouveau devant l'ignoble grouillement rapide et joyeux. En même temps, elle fit entendre une musique haineuse. Et la haine qu'elle chantait s'adressait en ce moment à moi, qui l'aimais aussi bien qu'à l'étrangère. Elles arrivaient. Ce fut une bousculade, un fourmillement indescriptible. Elles grimpaient les unes sur les autres. Toutes voulaient leur part de la communion de haine. Chacune tirait, pinçait, tenaillait, un bout de patte, un bout d'antenne, un bout de palpe. La patiente était torturée dans tous ses membres par cette horde qui se grisait de cruauté. Aristote tenait la tête dans les mandibules, et à petits coups heureux, lents, répétés, semblables à d'étranges baisers sadiques, elle mordillait, faisant durer la volupté. Je ne sais quel besoin de joie me venait du spectacle de toutes ces joies, du spectacle de cette douleur. J'étais écœuré, et pourtant un instinct puissant me soulevait, me portait vers l'infâme jouissance, me jetait moi aussi sur la proie à torturer. Je n'y cédais point, mais la peur d'y céder me lança dans une fuite. J'entrai à la fourmilière. En traversant une chambre de larves, je dis à une nourrice « Pourquoi se donner tant de peine à créer de la vie quand d'autres camarades s'amusent à faire de la mort ?» Elle me répondit « J'ai compris successivement chaque mouvement de tes antennes, mais maintenant qu'elles se sont arrêtées, je ne comprends plus. » Je passais avec une musique hautaine. Je m'enfonçais au plus noir souterrain, et seul, immobile, je me mis à songer. Ma tête était très douloureuse. L'homme y triomphait insolemment, comme si jamais homme n'eût tué un homme pour une différence de race. Aristote me retrouva. Visiblement, elle me cherchait. Elle me demanda, très douce, « Est-ce que je t'ai fait du mal tout à l'heure ?»« Oui, tu as tué mon affection pour toi. »« Je ne te comprends pas. Je t'ai bousculé un peu vivement, sans doute, mais je n'avais pas le temps de calculer, de modérer mon geste. Tu allais m'enlever ma part de la grande joie. » »« Oh, ce n'est pas de m'avoir bousculé que je t'en veux. » « C'est d'avoir tué sans raison. » Elle s'étonna. « Sans raison, mais une étrangère. Je te méprise d'avoir tué ta semblable. »« Ma semblable ? Une étrangère ? » Le hasard aurait pu te faire naître dans sa fourmilière ou la faire naître ici. Mais décidément, tu es une inventeuse de folies inouïes. Elle ajouta, « Tes paroles sont l'absurdité même. On est du pays d'où l'on est, et l'étranger est toujours l'étranger. » Et elle s'éloigna avec des musiques belliqueuses. Elles me furent horribles. Dans mon cerveau gauche, elles ébranlèrent d'étranges souvenirs musicaux. L'homme, tout à l'heure si fier de son humanité, se dressait maintenant, agressif, les poings fermés, les yeux hors de la tête, le corps lancé en avant, précipité tout entier vers un imaginaire ennemi. Ce n'était plus un homme. C'était un Français hurlant la Marseillaise. Peut-être devrais-je dire en une fois tous les souvenirs guerriers de ma vie de fourmi. Ils me sont trop pénibles. Je souffre trop en songeant que l'enrichissement des joies communes, que la beauté plus opulente de l'univers ne nous rende pas moins cruels, et que l'esprit peut s'abreuver de bonheur sans répudier l'absurdité laide de tuer de semblables instruments de bonheur. J'aime mieux me reposer un instant à retrouver mes pacifiques travaux. D'ailleurs, il me semble que je suivrai ainsi l'ordre chronologique, et que beaucoup de temps s'est passé entre les deux alertes que je viens de conter et les véritables guerres que nous eûmes à soutenir. Il me semble, mais je n'affirme pas. Pour mon esprit humain, toute ma vie de fourmi est une monotone mer d'oubli sous une nuit sans étoiles. De vagues îles de rêve y flottent, presque inabordables, agitées et comme mises en fuite, par mes mouvements même pour en approcher. Je ne sais comment fit Apollon quand il fixa la flottante Délos. Moi, je suis un maladroit fixeur d'îles. Je ne réussis à atteindre leur balancement fuyant que par des ruses, trop gauches sans doute, qui toujours les brisent en morceaux, les dispersent dans l'infini noir. Et il m'est difficile d'inscrire une date un peu exacte sur les rares débris que je saisis. Pourtant, je suis presque certain que les grands combats commencèrent vers la fin de la moisson. On se prépare longtemps à l'avance pour cette récolte qui doit nous nourrir toute l'année. Les plantes qui fourniront nos grains sont à peine en fleurs et déjà on se préoccupe de faciliter les futurs travaux. On visite d'abord les terrains de moisson de l'année dernière et on cherche tout autour du nid, dans un rayon de 50 à 60 mètres, si de nouveaux champs se sont créés. Aussitôt que les divers domaines à moissonner sont bien connus, on relie les nouveaux à la fourmilière par des routes neuves et on répare les vieux chemins détériorés par l'hiver. Les routes sont d'un tracé net et vont presque toujours en droite ligne. On les établit en creusant légèrement le sol et en débarrassant le parcours de tous les déblais, pierrailles, feuilles et autres obstacles qui pourraient entraver la marche. Les herbes, fauchées à ras du sol avec nos mandibules, sont rongées de nouveau chaque fois qu'elles reparaissent. La largeur de la voie varie selon l'importance du champ où elle conduit et les difficultés du défrichement. Je connais d'étroits chemins de 4 cm et de magnifiques routes de 20 cm. Dans les endroits dangereux, partout où des attaques de fourmis ennemies ou d'insectes carnassiers sont à craindre, le passage est protégé. Le plus souvent, le chemin se faufile entre deux remblais glissants et croulants, construits sur le même modèle que le cratère qui défend notre nid. Quelquefois, il est couvert d'une voûte maçonnée. Parfois, il s'enfonce, se transforme en galerie souterraine. Voici comment on procède pour la construction des voûtes. On élève, aux deux bords de la route, deux murs parallèles. Dès que ces murs atteignent une hauteur suffisante, on incline vers l'intérieur les matériaux qu'on y ajoute. Le travail a lieu simultanément sur les deux murailles et en plusieurs points, chaque fourmi œuvrant librement où il lui plaît, quand il lui plaît et comme il lui plaît. L'œuvre avance inégalement selon le nombre et l'ardeur des ouvrières qui s'emploient ici ou là. Bientôt, en quelques endroits, les deux côtés se rejoignent. Ces premières clés de voûte forment des points d'appui pour l'adjonction de nouvelles parcelles de mortier. Successivement, d'autres arceaux se soudent. Le viaduc enfin approche de sa forme définitive. Quelques trous restent seuls, dispersés dans sa partie supérieure. On bouche ces ouvertures avec soin. Et la fabrique est terminée. La construction des chemins couverts est œuvre rare. Presque toujours les remblais glissants, murailles qui s'écroulent sous le poids de l'agresseur et l'entraînent dans la ruine, paraissent suffisants. Dans les passages très dangereux, le tunnel est adopté de préférence, car on peut creuser par tous les temps, tandis que l'élévation d'une voûte n'est possible que par une pluie fine et dans les quelques heures d'humidité qui suivent la pluie. Nous n'avons en effet aucun moyen de donner nous-mêmes quelque cohérence à la terre employée et nous sommes obligés d'attendre le bon vouloir de la nature. Murailles et voûtes sont formées uniquement de terre mouillée. Chaque ouvrière apporte une petite pelote qu'elle vient de ratisser du bout de ses mandibules. Elle l'applique à l'endroit choisi, puis elle la divise, la pousse avec les dents, s'applique à remplir les plus petites inégalités de la construction. Les antennes palpent chaque brin de terre, s'assurent qu'il est bien disposé, puis les pattes antérieures pressent légèrement pour affermir. Ces parcelles de terre mouillée ne tiennent d'abord que par juxtaposition. Mais vienne une averse, elle les liera plus étroitement, égalisera, polira, vernira en quelque sorte la convexité de la voûte et l'extérieur des murailles. Les dernières rugosités de la maçonnerie disparaîtront. On ne verra plus qu'une couche de terre bien unie que consolidera la chaleur du soleil. Parfois, une pluie trop violente détruit les travaux commencés, emporte même des voûtes achevées, mais qui n'ont pas eu le temps de sécher, et la besogne est à refaire. On la refait toujours. La fourmi est persévérante jusqu'à l'entêtement. Elle s'acharne non seulement à obtenir le résultat définitif, mais encore à le produire par le moyen primitivement choisi. Même quand les circonstances, d'abord favorables, tournaient complètement contre nous, je n'ai jamais vu abandonner l'entreprise d'une voûte pour creuser un tunnel. Nous recommencions 10 fois, 20 fois le travail, 10 fois, 20 fois détruit par les choses méchantes. Une colère obstinée nous soulevait, nous soutenait. Ce n'est pas nous qui céderions. Il faudrait bien que l'hostilité des choses finisse par être vaincue. Si les chemins voûtés sont assez rares, en revanche, toutes les routes se bordent de distance en distance de légères constructions. Ce sont des abris préparés par les ouvrières et les provisions qu'elles portent. Ces sortes d'hôtelleries ont beaucoup d'usages utiles. Quand on est fatigué, on s'y repose en sûreté. Est-on poursuivi par un ennemi, on s'y réfugie, caché, introuvable ou tout au moins protégé par les murs, pouvant attendre du secours ou par la fuite les forces revenues, une seconde attention de l'assiégeant. On s'y abrite en cas d'orage, on peut y passer la nuit si on s'est trop attardé. Le soir, on y entrepose le produit d'une récolte ou d'une chasse qu'on viendra reprendre le lendemain, transporter à loisir. Voici les routes en état, bien défrichées, les vieux tunnels déblayés, les anciennes voûtes et les anciens refuges réparés. Tout est prêt pour le grand labeur. On attend une sorte de joie inquiète. On passe de longues heures à examiner l'état de maturité des grains. Enfin, venue l'époque fatigante et heureuse de la moisson. Au travail, au travail! Dès le matin, centre, chemins et routes sont noirs de monde. D'un côté, la colonne rapide de celles qui, libres de leur mouvement, courent à la besogne. De l'autre côté, plus lent mais aussi joyeux, le retour chargé. Paresseuse, éveillée seulement au brouhaha des premiers départs, je suis sorti du nid lentement, pensive, un peu triste. Mais l'activité de mes amis me fait honte, m'excite. Je cours, moi aussi, à la moisson, mon mal bercé, endormi par le rythme laborieux. Les graines jonchent le sol, mûres, sonores. Leur forme allongée et la fente qui d'un côté s'enfonce font sourire ma pensée humaine. Ne ressemblent-elles point les graines précieuses au pain croustillant qu'on mettait sur ma table? Et tandis que mes mandibules ramassent une graine, la soutiennent, la rapportent au nid, je me sens à gauche un homme du peuple qui marche heureux, sa bonne miche sous le bras. En peu d'heures, ce travail facile est achevé, plus rien à glaner dans le petit champ. Courons à un autre domaine. Les grains ici ne sont pas encore tombés. Il faut les cueillir là-haut, au sommet des tiges. Mais ils sont bien mûrs, prêts à s'échapper. Cueillette facile et amusante. J'ai grimpé jusqu'à un épi. Mes palmes entr'ouvrent l'enveloppe de chaque graine et mes mandibules tirent le grain, le font tomber. Au pied de la grande tige secouée par le vent où je travaille comme on joue, mes amis recueillent les bonnes choses que je lance, les emportent à la maison où j'en retrouverai ma part fortifiante. Ma pensée gauche sourit encore. Je suis un enfant dans un arbre fruitier et je jette à des camarades de gros fruits joyeux. Ou encore, je suis une petite fille qui égrène des perles souriantes. Le plaisant travail dure quelques jours, puis glanage et cueillette n'offrent plus rien. Il faut aborder la véritable moisson. Les grains moins mûrs adhèrent fortement à leur enveloppe. Chacun sera très long à détacher. Il vaudra mieux faire cette besogne à l'intérieur, tranquillement, à loisir, sur des épis étendus immobiles. Ici, détachons l'épi tout entier. Travail rude. Je roge la tige au point où l'épi commence. Aristote, cependant, a pris un coin de l'épi entre ses mandibules, tenailles qui ne lâcheront point, et s'arc-boutant sur ses pattes postérieures, elle tourne, elle tord. Elle est très adroite, Aristote. Pourtant, ses pattes, quelquefois, me rencontrent, se crispent sur moi au lieu de se river à la plante, me soulèvent, m'arrachent de mon poste dangereux, me suspendent à demi dans des vertiges. Enfin, la tige au rond, le sommet utile et lourd, tombe. Aristote a juste le temps de se garer, et j'ai failli, moi aussi, être entraîné dans la chute. Des aides accourent, nous emportons notre conquête, épi énorme dont les barbes çà et là se balancent comme des antennes trop raides. Fatigués par ce grand effort, nous ne revenons pas au champ. Nous nous joignons aux travailleuses du dedans. Nous épluchons notre épi, nous dégageons chaque grain de son enveloppe, comme nous dégagerions une jeune fourmi de son cocon de nymphe. Nous emmagasinons ces richesses dans un grenier bien sec. Nous transportons hors du nid l'épi vidé de tous ses trésors, et nous l'abandonnons sur un de ces amas de déchets qui font à notre ville une ceinture de collines artificielles.